BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tout pour investir TPI, votre TPI en direct. À nouveau, bien sûr, à la radio, à la télé, sur le web et en podcast. Alors les incertitudes persistent sur les marchés, les surprises viennent de tous les camps, de tous les côtés. Nous voilà avec un détroit d'Hormuz bloqué, on passe d'être bloqué, mais cette fois par la marine américaine. Alors, pas de géopolitique à quatre sous, on va voir comment réagissent les marchés, comment s'inscrivent, les dynamiques qui vont impacter ou pas vos investissements. On le voit pour le moment, les marchés actions résistent bien. On n'est pas prêt pour le moment à lâcher les gains issus du cessez-le-feu initial entre États-Unis et Iran. Pareil pour les cours du pétrole et du gaz qui montent, mais sans excès, on va dire. On sent aussi que le marché a à cœur d'intégrer les fondamentaux, la conjoncture mondiale, puis les résultats d'entreprise. Tout ça, on va le passer à la moulinette du déchiffrage avec Gustave Sonden de Colbert et Mathias Bachino de Trade Republic, arbitrage de court terme avec Michel Delobel d'MW Gestion tout à l'heure. Puis tiens, qu'en est-il de vous, les clients particuliers de la bourse? Est-ce que l'appétit des particuliers n'est pas quand même en train de flancher, notamment du côté américain, face à des marchés très volatiles et très incertains? On a des stats intéressantes à décortiquer dans le déchiffrage et aussi à travers la psychologie de marché. On verra ça tout à l'heure, évidemment, avec notre spécialiste maison qui sera là sur le plateau, hein, Julien Nebenzal d'Itoro. Et puis, les fondamentaux, ce sont aussi vos placements concrets, vos petits trésors, points techniques dans la boîte à outils avec Maître Barbara Thomas-David tout à l'heure pour vous aider à bien gérer vos indivisions patrimoniales et en particulier éviter les blocages, ça peut arriver. C'est une thématique d'actualité, on va dire, les blocages. Enfin, l'or. Incroyable destin de l'or ces derniers mois avec une fièvre spéculative qui tend un peu à se calmer, des cours qui s'assagissent alors même que les incertitudes sont quand même à leur comble. C'est un petit peu paradoxal. Est-ce que c'est justement le moyen de s'y intéresser si on n'y est pas exposé encore? On va faire le point sur le marché de l'or en fin d'émission dans le coffre-fort avec Olivier Herbault de Ramify. Vous pouvez nous joindre évidemment par mail pour nous poser toutes vos questions directes à bfmbusiness.fr. Nous envoyer un SMS au 73216, tapez le mot-clé business suivi de votre message et puis vous pouvez me joindre directement sur Twitter, sur X ou sur LinkedIn. L'actualité du jour, alors pas d'accord à Islamabad ce week-end, pas de réouverture effective du détroit d'Hormuz, ce sont les États-Unis qui vont procéder à leur blocus. La marine américaine annonce qu'elle empêchera tous les navires sans distinction de passer dans le secteur. Donald Trump poste sur son réseau que ça ne touchera que les navires qui arrivent ou repartent d'Iran, donc toujours un certain flou. En tout cas, entrée en vigueur de ce blocus américain partiel du détroit d'Hormuz à 16h, heure française aujourd'hui, alors que les pays de la région essaient quand même de ramener tout le monde autour de la table des négociations. Un deuxième cycle pourrait même avoir lieu dans les prochains jours, selon le Wall Street Journal. En attendant, les cours du pétrole remontent très fermement, mais encore une fois, il n'y a pas d'excès. $102.77 pour le baril de Brent de mer du Nord, $104.60 pour le brut léger américain. Et le gaz TFF prend 9% à l'ouverture ce matin à Rotterdam, €47 le mégawatt-heure. Large victoire pour Péter Magyar en Hongrie, l'opposant conservateur à Viktor Orban qui obtient une large majorité des deux tiers au Parlement hongrois, 138 sièges sur les 199. Résultat salué à Paris, Berlin, Londres, Bruxelles ce matin alors que le futur Premier ministre promet d'être un membre loyal de l'Union européenne. En France, Matignon temporise sur le 1er mai, pas de passage en force, c'est la promesse à l'adresse des syndicats. Vent debout contre la réforme du travail le 1er mai. Les 8 grandes organisations ont écrit au Premier ministre pour lui demander de ne pas convoquer de commission mixte paritaire sur le texte. Elles seront reçues au ministère du Travail. Et dans ce contexte, c'est la menace d'une censure qui ressort du chapeau. Olivier Faure prévient qu'il déposera une motion contre le gouvernement avec les autres groupes de gauche si le dialogue social n'est pas respecté. Le gouvernement indique d'ailleurs ce matin que la crise au Moyen-Orient aura un effet sur la croissance, ce qui va conduire à une réévaluation des prévisions économiques. Enfin, l'actualité des entreprises. LVMH va ouvrir le bal des grosses publications en France. Cet après-midi, ce sera plutôt du côté de Wall Street avec le secteur bancaire. Mais nous, ce sera donc LVMH ce soir, le groupe qui publiera ses ventes trimestrielles après la clôture des marchés, alors que son cours de bourse a fortement chuté dès janvier, pas aidé ensuite par le contexte géopolitique. Allez, tout de suite, votre tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Donc c'est la surprise du chef et donc un blocus du détroit d'Hormuz, mais cette fois organisé par la marine américaine. Alors beaucoup de géopolitologues tout le week-end ont dit oui, ça n'a rien d'étonnant. Bon, quand même une surprise. En tout cas, le marché temporise. Moins 0,89%, 8185 points pour le CAC 40. Attention, il est question de dire qu'il n'est pas question de rendre les gains qu'on a engrangés après l'annonce du cessez-le-feu donc entre Iran et États-Unis. Et ça, c'est peut-être un facteur technique important et à retenir. -0,9% en tout cas pour l'Eurostoxx 50. Le DAX, -0,83%. C'est un peu plus rude du côté de Madrid qui perd 1,3%. Milan, -0,8%. Et à noter Londres, -0,4%. Donc on peut parler de baisse modéré. À la baisse sur le CAC 40, ben, on a pas mal de titres qui ont pas mal performé la semaine dernière, qui rendent des gains, en particulier Kering, -2,6% à 269,20 €. On aura les résultats dans la semaine, enfin le chiffre d'affaires trimestriel, l'ensemble du secteur du luxe publie. On a Safran, -2,7%, 304,90 €. Stellantis, -2,28%, 6,73 €. En revanche, ce qui permet de bien résister au CAC 40, ben c'est déjà la vigueur du secteur de la distribution. On a Carrefour qui gagne 1,3% à 16,58 €. Pas mal d'analystes s'interrogent et positivement sur les possibilités de croissance du cours de Carrefour dans le contexte actuel. On a Total Energy, là c'est pas, c'est moins une surprise, qui gagne 1,5% à 79,76 €. À noter Thales aussi, secteur de la défense, bien sûr, +0,8%, 261,30 €. Qu'est-ce qu'on a en hausse sur le SBF 120? Là aussi, pas trop de surprise. Vallourec qui gagne 3,4% à 23,93 € après déjà une semaine spectaculaire. Les parapétroliers sont très entourés en ce moment et constituent le deuxième étage de la fusée de la progression du secteur énergétique en bourse après les majors pétrolières. On entoure un petit peu ceux qui vont être à l'origine de nouveaux projets d'exploration, peut-être de la réparation de tout ce qui a été évidemment attaqué pendant la guerre entre Amérique et Iran. Vallourec donc +3,4%. On a Viridien +2,5% à 126,60 €. Puis à noter dans le secteur de la défense, Exail Technologies, toujours bien orienté, +2,9% à 126,90 €. On le sait, les drones sous-marins vont être largement sollicités, alors qu'on craint un minage du secteur du détroit d'Ormuz. Air France KLM -3,9% à 9,67 €. OP Mobility -3,79 €, 15,76 €. Aéroport de Paris -3,36 € à 112,20 €. Voilà pour le trio de queue de peloton sur le SBF 120. À noter que ça se tend très largement sur les taux d'intérêt du côté du marché obligataire. Alors, est-ce que c'est ça qui va faire encore reculer Donald Trump et apaiser les tensions géopolitiques? Mais en tout cas, le 10 ans américain remonte largement du côté des 4,33 % et ça pique franchement côté européen. 3,72 € pour la dette française et la dette allemande est à 3,07 €. Le pétrole, donc, je vous en ai parlé, hausse certes forte, mais modéré dans le contexte actuel du Brent qui est à 102,79 $ et 104,65 $ pour le baril de brut léger américain, 4,747 $ pour l'once d'or fin dont on reparlera en fin d'émission. On déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Ça fait plaisir de retrouver en direct Mathias Bacino, Trade République. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Et Gustave Sonden de Colbert. Bonjour messieurs. On va peut-être commencer par le gros sujet du jour. Évidemment, le blocus qui arrive de là où on ne l'attendait pas forcément. C'est Donald Trump qui nous a concocté son propre blocus. Et qui a... Alors, il y a une sorte d'ambiguïté, parce que hier, le CENTCOM était clair. Aucun navire, aucun, ne passera le détroit d'Ormuz tant qu'on sera là. Donald Trump... Hier soir, ceux qui partent ou qui arrivent en Iran. Bref, on n'en sait rien. Globalement, on est encore dans la diagonale du fou. C'est à peu près ça en termes de stratégie au jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'on peut en penser du côté, alors bien sûr, de ce qui nous regarde de plus près, à savoir sur l'offre, la demande mondiale en matière de pétrole. On voit que les cours remontent. Mais c'est pas la catastrophe non plus, et en tout cas, ça correspond au mouvement qui s'inscrit sur les marchés actions, c'est-à-dire que on va certainement pas rendre les gains qu'on a engrangés depuis l'annonce du cessez-le-feu. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ?
C'est sincèrement, j'ai rarement vu un niveau d'incertitude aussi élevé que ce qu'on vit actuellement, et je suis très étonné que la volatilité des marchés de manière générale soit pas plus importante. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus d'inquiétude et d'angoisse, entre guillemets, sur la transmission au reste de l'économie de la fermeture du détroit d'Ormuz. Parce qu'en fait, ce qui compte vraiment, c'est à quel moment cette fermeture va faire baisser les bénéfices des entreprises. Et donc leur perspective de croissance des bénéfices, et donc les marchés. quelque part. Si je simplifie à l'extrême.
Ouais, ça, on va peut-être le savoir avec la vague de résultats qu'on attend. Cela dit, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe qui est en train de s'inscrire et qui s'est inscrit en plusieurs phases sur les marchés? Enfin, c'est l'impression que je peux avoir sur... voilà, encore une dinguerie. Bon, c'est bon, on oublie. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger?
Ah bah c'est, vous voyez, il y avait Pierre et le loup et maintenant il y a Donald et le loup.
C'est
quoi.
Ça.
C'est-à-dire que on n'y croit plus. Enfin, je veux dire, c'est humain. Le niveau d'attention baisse tout simplement et niveau de crédibilité baisse. Ma propre perception à moi de Donald Trump a changé radicalement depuis un mois. Et pourtant, j'étais sur une perception stable de ce qu'il essayait de faire depuis un an. Mais là, depuis un mois, le sentiment que j'ai, et ce qui semble être confirmé par les faits pour l'instant, c'est que sa capacité à maîtriser le narratif, parce que c'est ce qu'il fait concrètement, il maîtrise le narratif, a baissé. Et là, clairement, depuis 15 jours, il ne me paraît pas être en contrôle. Il réessaiera toujours d'écrire l'histoire pour nous montrer qu'il est en contrôle, mais là, actuellement, il ne me semble pas qu'il le soit. Et l'enjeu, c'est quelle sortie pour lui sans perdre la face. Parce que c'est l'une de ses priorités, de ne pas perdre la face. Et donc, il faut voir dans quelle mesure il va faire porter à d'autres, les Européens, les Asiatiques, les conséquences économiques de son incapacité à contrôler la situation. Donc il y a un moment donné où il va devoir sortir par le haut pour sauver la face, et il est probable que ça ait des conséquences économiques négatives pour les Européens et pour les Asiatiques. Pour les Américains aussi, mais il essaiera de le limiter. Maintenant, la situation actuelle est quand même totalement inacceptable, quoi. C'est juste incroyable.
Gustave, il y a Wilfried Galland ce matin dans la matinale de Laure Clausier qui avait trouvé une très bonne citation d'un chercheur de Stanford, je crois, qui est « La politique de Trump, c'est « break it now, fix it later ». En gros, on fait n'importe quoi, de toute manière, presque l'intendance suivra. Est-ce qu'on en est là et est-ce que ça expliquerait justement ce réflexe qui devient conditionné des marchés, à savoir, bon, ben voilà, c'est... Bon, concentrons-nous sur les fondamentaux déjà, on paniquera plus tard.
Moi, je ne suis pas tombé de ma chaise hein, quand même, après cette rupture des négociations, c'était pas...
Alors, la rupture des négociations, ça, pour le coup, c'était pas une surprise.
Tout le monde ne s'attendait pas à un accord en 24 heures. Il y a quand même maintenant un certain nombre d'éléments qui traquent ça, Polymarket, etc. Le fait qu'il y ait une issue rapide, compte tenu des plans qui étaient partagés par l'Iran. D'ailleurs, il y a eu différents plans, ils étaient tous en 10 points, mais ce n'étaient pas tous les mêmes. Et donc, c'était quand même des attentes très importantes. On voyait que la réconciliation, une réconciliation en 24 heures... Il y avait quand même peu d'espoir. Pour ce qui est de Trump, je pense qu'il essaye quand même de forcer la négociation. Je ne sais pas si c'est break it, mais en tout cas, c'est fix it, ça c'est sûr. Il essaye de forcer d'imposer son cadre avec effectivement une stratégie de la loi du plus fort. C'est assez manifeste, il n'y a pas besoin de le commenter. Je le rappelle, les autres conflits dans la guerre du Golfe, ils n'ont pas duré 3 semaines.
Hein. Donc,
Donc là, on est quand même sur toujours une stratégie, je pense, forme de blitzkrieg. Donc de guerre rapide.
C'est horrible à dire, parce que oui, ça a duré un moment, les précédentes guerres du Golfe. J'allais dire un truc horrible, c'est oui, c'était une affaire sérieuse à l'époque.
Oui, c'était une affaire sérieuse, mais donc si tant est qu'il arrive à un moment donné à des résultats en imposant son cadre de négociation, et il semble pouvoir surenchérir, et dans ses éléments de communication, il laisse toujours entendre qu'il peut surenchérir et que finalement. C'est sa grande compassion finalement qui permet aux Iraniens de continuer. Potentiellement, il trouvera un accord. Et là, il vient de nous démontrer un nouvel élément de pression qu'il vient de mettre en application avec ce blocus. Donc, c'est un élément supplémentaire et qui est différent, du coup, de la partie, je dirais, purement guerrière, qui est plutôt de la guerre économique à nouveau, et qui va venir impacter, finalement, emprisonner celui qui les prenait en otage en réduisant... En conclusion, quand même, l'approvisionnement et les flux mondiaux de pétrole, et donc en impactant tout le monde, comme le disait Mathias. Mais effectivement, pour l'instant, moi, je vois un cadre qui ne change pas tant que ça, en fait, par rapport aux éléments publics que nous partage l'administration américaine.
Alors, tout ça, il faut voir que ça a des répercussions manifestes et concrètes. Et l'OFCE a des prévisions de recul du pouvoir d'achat qui commencent à devenir conséquentes et ça fait commencer. On voit que le gouvernement est sur le point aussi d'abaisser ses prévisions de croissance.
Effectivement, c'est ce qu'on dit depuis le démarrage. Pétrole, c'est une composante clé du panier de l'inflation. Je crois qu'en France, c'est autour de 80% des gens qui prennent leur voiture tous les jours pour aller au travail. Aux États-Unis, c'est peut-être encore plus. Donc, et effectivement, le mix ou le parc de voitures reste très largement indexé au pétrole. Donc là, il y a généralement un léger délai. On arrive au bout de ce délai, ça commence à se voir. Je pense que tous ceux qui vont à la pompe s'en rendent déjà compte. Et ça va se poursuivre. Et donc, effectivement, c'est évident qu'on va le retrouver dans les chiffres et que ça va impacter le pouvoir d'achat de tout le monde.
Alors, pouvoir d'achat et puis perspective d'emploi. On voit que ça commence à piquer du côté de l'emploi aux États-Unis. Il fallait s'y attendre après. Ça n'a qu'un impact pour l'instant modéré sur les chiffres généraux de l'emploi, mais les licenciements massifs chez Oracle, chez Dell, enfin, ça se compte par dizaines de milliers en plus. Bon, c'est un autre sujet, mais ça se fait avec une sauvagerie qui a rarement été atteinte aux États-Unis, parce que c'est pas la crise. Voilà, y a des gens qui se font vider de leur fauteuil en une matinée par mail. Cela dit, ça sent aussi dans l'administration américaine, ça commence à piquer, et puis du côté des chiffres généraux.
La transmission au reste de l'économie, si le conflit durait plus de 4 semaines, il faut quand même se rappeler ce qu'on se disait le premier jour ou dans les premiers jours du conflit. Ce qu'on se disait au tout début, fin février, début mars, c'était si ça dure plus que 4 semaines, les conséquences économiques seront durables. Donc la mécanique de transmission, elle est claire, c'est le pétrole et les coûts du transport maritime de manière générale qui augmentent, et tous les coûts de transport qui augmentent. En mars, le coût d'un camion a déjà augmenté de 10%, le coût du transport maritime a déjà augmenté de 15%. Ça se transmet au reste des biens manufacturés. Ça fait baisser ensuite la consommation des gens, puisque cette inflation-là les empêche de consommer autre chose. Ouais. Ce qui fait ensuite baisser les revenus des entreprises, qui eux-mêmes ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc il y a une mécanique de contagion au reste de l'économie qui devient de plus en plus difficile à arrêter. Et il y a sur 3 mois aussi la mécanique de contamination alimentaire, puisqu'avec tous les intrants et les engrais agricoles qui sont expédiés par le détroit d'Ormuz, à un moment donné, au bout d'un certain temps, ça fait augmenter le prix des biens alimentaires aussi. Donc il y a cet ensemble de contaminations. En France, c'est pas de bol, entre guillemets, parce que les hausses de salaire de 2026 ont été négociées avant le début du conflit. Donc on va avoir entre 1 et 1,5 de hausse des salaires avant le conflit, mais avec une inflation qui était à l'époque à 0,9.
Bah, c'est ça.
Sauf que, en fait, l'inflation va très probablement être en France d'au moins 2% sur la deuxième moitié de l'année. Et donc, un recul, comme le dit l'OFCE, de 0,4% du pouvoir d'achat en France. Donc, c'est évidemment une situation qui est très négative. Et la grande question, à mon avis, qui va se poser si on continue plusieurs semaines de conflit, c'est quid de la récession mondiale ? Voilà.
Ben oui, surtout que vous parliez des engrais et de la contamination à l'alimentaire. Il y a aussi toute la problématique de la chimie de spécialité, notamment de l'hélium.
Ouais, pour les semi-conducteurs, bien sûr.
Qui sont essentiels à la fabrication des data centers, de tout un tas de choses. Donc là, ouais, l'inflation va piquer. Le corollaire de ça sont des marchés agités. Et il y a quelque chose, c'est peut-être bien la stat du jour que vous nous amenez. Sur le comportement des acteurs du retail sur les marchés actions. Alors, c'est les marchés actions américains, hein, si j'ai bien compris.
Exactement, ouais.
On se retrouvait, c'est très intéressant, parce que pendant des mois et des mois, il y avait, pendant les phases de baisse de marché, les investisseurs institutionnels qui vendaient assez massivement, toujours le lendemain, le retail, l'activité vraiment des particuliers face à la bourse, faisait remonter le marché. Et là, on se rend compte que les statistiques sur les positions vendeuses des particuliers en bourse américain n'a jamais été aussi basse depuis plusieurs décennies.
C'est un indicateur que j'aime bien, vous savez, les petits indicateurs.
Si c'est pas un purée de signaux faibles, là.
En l'occurrence, celui-ci s'appelle le robot. Ils ont toujours un petit nom.
Ouais.
Retail Opening Buy Order. Donc, il traque quoi ? Il traque le rapport de put sur le rapport de call, c'est-à-dire d'options de vente sur les options d'achat du retail, donc des investisseurs particuliers. Et là, pour la première fois depuis 20 ans, il est à 1. C'est-à-dire qu'il y a autant d'options vendeuses qu'acheteuses. Sachant qu'on sait que le retail est plutôt optimiste par rapport aux investisseurs institutionnels à la base. Donc quand on se dit ça, oh là là, on se dit bah, effectivement, c'est un signe de récession, tout le monde est vendeur. En fait, c'est un peu plus nuancé. Et si on regarde l'histoire, on peut être beaucoup plus optimiste que ça.
C'est ce que j'allais vous dire, parce que est-ce que le balancier n'est pas en train de se retourner ? C'est-à-dire que le retail est effectivement très frileux face au marché, mais que les institutionnels, eux, vont prendre leur lait. Est-ce que ce n'est pas un changement de paradigme, en fait ?
Vous me devancez un peu, Antoine, mais oui. C'est exactement ça le point. Ouais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate chez Colbert, c'est que on voit qu'il y a en fait beaucoup de cash, 7800 milliards sur des fonds monétaires. Il y a effectivement des positions vendeuses qui se traduisent aussi par des arbitrages, comme par exemple sur les obligations investment grade, donc les plus sécurisées, bien moins sûr. 5,85 milliards de retraits en une semaine la semaine dernière aux US. Donc en fait, il n'y a plus grand-chose à faire pour se couvrir.
Ouais.
Ce qui fait que, en fait, les mauvaises nouvelles, elles sont dans les positions.
Elles sont dans les cours.
Elles sont dans les prix. Donc demain, ou typiquement aujourd'hui, on a pris une mauvaise nouvelle, bah on voit que ce n'est pas non plus la débâcle.
Ouais.
En revanche, la nervosité, elle pourrait bien plus être sur les bonnes nouvelles, parce que tout le monde ne va pas avoir les moyens de rester complètement en dehors des marchés s'il y avait une bonne nouvelle et ça reprenait. Mmh. Et donc, à mon sens, attention, les crises se passent rarement quand tout le monde est en position vendeuse.
Bah, c'est ça.
Donc, c'est plutôt ça, des bottoms, toute proportion gardée, hein, ça peut être un bottom dans un cycle très long et haussier, que, à mon sens, le signe que tout va s'effondrer et tout le monde l'aura anticipé. Donc maintenant, tout le monde serait devenu Michael Burry. C'est une bonne nouvelle, mais j'ai du mal à y croire, je vous avoue.
Non, mais c'est un biais comportemental. Mais on en reparlera tout à l'heure avec Julien Nebenzahl. Alors ça, c'est son truc, la finance comportementale. Il sera en plateau avec nous.
C'est comportemental, mais c'est quand même aussi les flux. Hein.
Mais totalement, oui, ça se vérifie dans les chiffres. Mathias, vous avez un sentiment là-dessus ?
Il y a quand même une vague d'investisseurs de long terme en bourse aussi, au-delà des options call et put, et qui continue en Europe, en tout cas, ça c'est ce que moi j'observe, d'investir. Les plans d'investissement des particuliers en Europe n'ont pas été suspendus, parce qu'il y a une donnée qui commence à être de plus en plus connue, c'est-à-dire que sur 25 ans de bourse, si vous ratez les 10 meilleurs jours,
voilà, vous loupez.
C'est-à-dire les 10 meilleures performances quotidiennes, si vous les ratez sur 25 ans, vous avez la moitié de la perf au bout de 25 ans.
Ouais.
Donc ça est quand même quelque chose qui commence à être connu du grand public, qui se diffuse dans la société et qui permet pour les investisseurs de long terme en tout cas de prendre les bonnes décisions. Le signal d'inquiétude qu'il y a et qui a été confirmé par la Fed il y a quelques jours, c'est évidemment le crédit privé dont on a déjà parlé, puisque la Fed a commencé à demander aux banques américaines de nous faire un petit audit là
de
où en est l'exposition à cet actif risqué.
On aura peut-être aussi des indications là. Il y a le secteur bancaire américain qui va publier cette semaine. Ce sera peut-être l'occasion.
Et je rappelle qu'avant le déclenchement du conflit en Iran, les perspectives pour 2026 étaient positives.
Tout à fait. Ouais.
On s'attendait à ce que les taux continuent de baisser, à ce que l'inflation continue de reculer, à ce que les banques centrales puissent soutenir et à ce que la croissance reparte à un moment donné. Donc on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle non plus.
On n'est jamais à l'abri d'un coup de bol.
Mais avec Donald Trump, le problème actuel, c'est que ça devient vraiment très difficile d'anticiper. Et ce que je n'arrive pas à savoir, c'est s'il a les moyens de terminer cette guerre ou non. Et on dirait pas, pour l'instant.
Ça, franchement, il n'y a pas grand monde qui le sache, mais on va laisser parler les géopolitologues. En tout cas, on a bien fait le tour et on voit un petit peu les impacts en cascade sur les marchés. Merci infiniment, Mathias Bacino, Trade République, et Gustave Sonden-Colbert. Merci d'avoir déchiffré cette actu avec nous. On passe aux arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Michel Delobel, MW Gestion, bonjour. Un marché bon qui garde sa contenance quand même. Hein. Moins 0,8% pour le CAC 40, on est à 8194 points. On le disait il y a quelques minutes, vraiment la traduction de marché est quand même intéressante. C'est on ne va pas solder tous les gains qui ont été engrangés depuis l'annonce du cessez-le-feu entre États-Unis et Iran. Et c'est peut-être un bon pas positif.
Oui, c'est un pas positif. On a un marché qui reste malgré tout très, très incertain. Avant que je prenne l'antenne, je faisais le compte du nombre de gaps d'ouverture que l'on a eu depuis le début du conflit, c'est-à-dire depuis 30 jours, enfin 30 séances de bourse. On est à 12 gaps d'ouverture. Il y en a 8 qui sont restés jusqu'à la clôture. Alors, je ne sais pas si ça sera le cas aujourd'hui ou pas, mais ça dénote quand même une grande incertitude et surtout une grande imprévisibilité. On connaît Trump et on sait qu'il peut souffler le chaud et le froid d'un jour à l'autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le repli, finalement, est assez contenu. Alors, certes, il y a Total qui permet d'amortir un petit peu le repli. Ça baisse un petit peu plus sur l'Eurostoxx. Mais on a un marché qui est malgré tout relativement solide et qui a envie d'y croire. Et même si on prend un petit peu de recul, le repli n'est, enfin, depuis le début du conflit reste modéré. Là, on était revenu vendredi sur les niveaux de mi-février ou sur les plus hauts qu'on avait touchés mi-novembre. Donc il y a pas de vraie crainte. C'est assez surprenant que le marché soit aussi solide dans, compte tenu des incertitudes qui étaient évoquées par les précédents intervenants. Ça fait plus d'un mois que le conflit dure et c'est vrai qu'on peut craindre des répercussions quand même sur l'économie au sens large. On l'a vu un petit peu avec l'inflation ou autre. Voilà. Après, d'un point de vue purement graphique, on a atteint aussi vendredi des niveaux relativement importants à court terme, en tout cas sur le CAC 40, qui était un des gaps baissiers qu'on avait ouvert au tout début du conflit. Et justement, on était revenu sur les 8301-315, qui était le petit sommet atteint mi-novembre. Voilà, on a eu ouvert aussi un gap aussi assez important mercredi dernier. Donc, c'est normal qu'on revienne un petit peu à la baisse, tester certains niveaux, mais pour l'instant, de façon très mesurée. Il n'y a pas de panique du tout, pas d'emballement, malgré le rebond du pétrole aussi qu'on a vu ce matin.
Mais précisément, c'est peut-être là que je voulais que vous interveniez. La hausse du pétrole, elle aussi, est modérée. On reste sans doute sur la même logique. Sur le gaz, c'est peut-être une autre affaire. Mais pour l'instant, le Brent reste quand même dans des normes d'évolution on va dire qu'on peut s'y faire. Hein, 102,83 $ là pour le moment.
Oui, ça reste. Enfin, on peut s'y faire quand on voit le prix quand même à la pompe. Je suis pas sûr que les consommateurs.
Je parle des marchés, hein. Oui, non, les consommateurs, inquiétez pas.
Voilà, mais non, mais après, encore une fois, tout va dépendre de la durée du conflit. C'est vrai que nous Européens, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz. C'est quand même avant tout du pétrole qui part en Asie. On pourrait se dire, nous, on devrait être un petit peu moins impactés. Et après, les fluctuations des prix du baril, du Brent, du brut. Sont bien évidemment drivés par plein d'autres sujets. Il y a aussi beaucoup de spéculation. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais bon, en tout cas, on est sur des niveaux de marché qui sont plus élevés que ceux qu'on avait quand le baril a atteint les 100 $ il y a quelques semaines de ça. Donc comme si on s'acclimatait un petit peu effectivement à ces prix-là. C'est assez compliqué de pouvoir anticiper quoi que ce soit à court terme, sincèrement. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à raisonner, quand ça baisse un petit peu trop, on réinvestit, et quand ça remonte un petit peu, comme c'était le cas la semaine dernière, il faut pas hésiter à prendre quelques bénéfices, à relâcher un petit peu la pression, refaire des liquidités, parce que voilà, comme ce matin, c'était difficile de savoir si ça allait ouvrir en baisse ou en hausse à la clôture de vendredi soir. Bon, avec ce qui s'est passé ce week-end, ok, ça ouvre en baisse. Mais là aussi, même hier soir, est-ce qu'on allait ouvrir avec un repli de 1, 2 ou 3%? C'est pas toujours évident d'anticiper l'amplitude des réactions du marché, parce que voilà, l'histoire du blocage par les États-Unis du détroit, c'est un petit peu aussi incompréhensible. On sait pas trop à quel jeu Trump joue. Enfin, voilà, beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut aussi revenir à un peu de bon sens. Quand ça remonte un petit peu, on prend quelques bénéfices. Quand ça rebaisse un peu trop, on réinvestit en attendant d'y voir plus clair à moyen terme.
Voilà, et puis bien sûr, il y aura les catalyseurs fondamentaux et notamment les résultats d'entreprise toute cette semaine.
Voilà, qui vont arriver effectivement dès les prochains jours.
Qui vont être très importants. Merci beaucoup, Michel Delobel, d'MW Gestion, moins 0,77% pour le CAC 48195 et le Brent de Mer du Nord, 102,83 $. On va parler patrimoine, on va parler indivision, on va parler blocage. Alors, c'est pas du détroit d'Ormuz, mais c'est du blocage dans vos opérations patrimoniales et on en parle dans quelques minutes avec Maître Barbara Thomas David. À tout de suite, restez à l'écoute de BFM Business.
Tout pour investir. La boîte à outils.
Maître Barbara Thomas David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire à Paris, il est bon de le repréciser, et on va parler des problèmes d'indivision. Et oui, les indivisions, c'est comme tout, c'est un processus, il peut se bloquer quand il a trait à plusieurs parties qui ne sont pas forcément d'accord. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler, en termes patrimoniaux, dans quel cas on a recours à l'indivision? Dans quelle situation on est confronté à cette problématique de devoir faire des indivisions patrimoniales?
Alors en fait, on est en indivision à partir du moment où on est plusieurs propriétaires d'un bien immobilier ou mobilier d'ailleurs, ça peut être des actions, ça peut être un compte bancaire, mais les problématiques se crispent, on va dire, quand on est propriétaire en indivision d'un bien immobilier.
Oui, c'est plutôt là.
C'est ça. Les cas types, c'est quoi? C'est l'indivision dans le cadre d'une communauté de biens, dans le cadre d'un PAX ou d'une indivision, un couple en fait, quel que soit le mode de conjugalité, vous allez être en indivision et pas forcément 50-50. Et puis vous allez être en indivision aussi dans le cadre des successions, c'est-à-dire que vous allez hériter par exemple de vos parents d'un bien immobilier, vous êtes trois enfants, vous allez vous retrouver à un tiers chacun. Ça, c'est des cas encore simples, mais vous avez des cas où vous allez hériter d'un grand-oncle, où vous allez vous retrouver avec 25%, 15%, 5% du bien, ou alors, vous savez, c'est ces fameuses indivisions en Corse, où eh bien, personne ne partage de génération en génération, et vous vous retrouvez avec un 125e d'une indivision un peu inextricable, ouais. Avec des règles du code civil qui sont compliquées.
Oui, dans lesquelles il y a des tas d'exceptions, où il faut veiller au grain. Alors, un bien géré en indivision, c'est un peu comme une entreprise, j'allais dire. C'est-à-dire que pour certaines décisions, on fait une sorte de conseil d'administration, on se réunit autour de la table et puis on prend des décisions. Il y a certaines de ces décisions où l'unanimité est nécessaire. D'autres pas forcément. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les cas d'usage?
Alors, moi j'ai toujours coutume de dire que quand vous êtes en indivision, vous avez intérêt à bien vous entendre avec vos co-indivisaires. Parce que, quelles que soient les décisions, normalement le principe c'est l'unanimité. Après, vous avez deux types de décisions différentes, les décisions qu'on appelle de gestion, qu'on appelle les décisions d'administration, et les décisions de disposition qui, elles, sont les actes plus graves, c'est-à-dire la vente ou l'hypothèque du bien. Dans les premières, dans le premier cas, c'est-à-dire dans les problématiques de gestion de l'indivision, maintenant, la loi a changé, ça fait un petit moment depuis 2006, si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, à deux tiers des indivisaires, vous pouvez prendre des décisions de bonne gestion, c'est-à-dire la location du bien, la réparation du bien, et finalement, cette réparation, qui est peut-être un peu chère pour que le bien ne se détériore pas, eh bien, il va être, si vous voulez, ces travaux vont être obligatoires pour tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas payé, on va pouvoir leur dire, il y a deux tiers qui ont été d'accord pour payer, donc on vous demande le remboursement. Donc ça, c'est pour les décisions d'administration. Mais alors, il y a des décisions qui sont plus compliquées, c'est la vente. Vous savez que le principe, c'est que nul ne peut être tenu de rester en indivision. Parce que vous comprenez bien que vous ne pouvez pas être l'otage de l'indivision. Vous avez peut-être envie de faire un autre projet, de libérer des revenus.
Puis dans certains cas, c'est profondément inconfortable parce que voilà, on a des indivisaires qui ne sont absolument pas d'accord. Enfin, on voit ça dans l'immobilier, dans la gestion des copropriétés. C'est un peu infernal même des fois. Donc oui, on peut être vraiment retenu par une indivision. C'est ça aussi qui est compliqué. Donc, dans la vente, comment ça se passe?
Alors, normalement, encore une fois, nous, on est des magistrats de l'amiable. On essaye de dire aux gens, trouver une solution, parce que sinon, ça va passer en justice et ça va être compliqué.
Avocat, juge,
etc. Donc, en principe, il faut être d'accord sur le principe de vendre. Et même si vous avez une minorité de blocage de 1%, il faut normalement l'unanimité pour vendre. Alors maintenant, il y a eu deux passerelles. La première passerelle, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que depuis 2006, vous pouvez, à une majorité des deux tiers, vendre le bien. Mais c'est pas comme les actes d'administration où vous réunissez, vous dites « Ah, ça y est, on est deux tiers, on décide ça ou on décide ça ». En matière de vente, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir signifier à vos co-indivisaires récalcitrants, vous avez deux types de co-indivisaires qui veulent pas vendre, soit les taiseux, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, ils s'en fichent, soit ceux qui s'opposent à la vente pour une raison X ou Y. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir saisir le juge, et le juge va, en son âme et conscience, décider si ces deux tiers vont pouvoir vendre ou pas.
Et puis tout ça, ça prend du temps.
Ça prend énormément de temps.
Et accessoirement, pas mal d'argent aussi.
Ça peut prendre 2 ans, vous voyez.
Ouais.
La procédure d'adjudication pure et simple, on est à presque 5 ans avec l'encombrement des tribunaux. Et là, on est à peu près à 2-3 ans.
Ouais. Donc oui, c'est plutôt... Enfin, faut plutôt essayer de se mettre d'accord parce que sinon, enfin, ça
Ah, mais c'est l'enfer. Et vous avez vu, Il y a une loi qui vient de passer il y a moins d'une semaine, hein, le 7...
Oui, c'était début avril.
C'est ça, début avril. Ça a été décidé à la quasi-unanimité au Parlement. Parce
là aussi, quasi-unanimité.
Tout voilà. Le monde a senti que dans sa famille, proche ou moins proche, il y avait ce genre de problématique. Oui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui dit qu'un indivisaire, tout seul, peut demander au tribunal la vente du bien. C'est-à-dire que vous ne passez plus par l'unanimité, vous ne passez plus par la majorité des deux tiers, un indivisaire tout seul. Attention, il doit avoir un intérêt légitime, hein. Ce n'est pas un caprice parce que d'un seul coup, il trouve que la maison des grands-parents ne lui plaît plus. Il faut avoir un vrai intérêt légitime à vendre. Le bien se détériore ou il y a une très mauvaise entente entre les indivisaires. Voilà.
Ça, donc, ça peut être constaté et ça peut être un argument pour faire usage de cette loi.
Donc voilà, oui, tout à fait. Et en fait, c'est le juge, vous saisissez le président du tribunal judiciaire, qui, en son âme et conscience, va décider si oui ou non, il y a un intérêt légitime à la vente. Et vous pensez bien que comme c'est une procédure rapide et allégée, il va quand même regarder de façon très précise, à la loupe, si l'intérêt légitime est bien respecté.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut faire face sans doute aux procéduriers les plus furieux de l'autre côté. Donc, quand c'est il ça. Est question d'un bien immobilier ou de choses comme ça, surtout dans le contexte actuel.
C'est ça, mais voilà, c'est une avancée législative. Et nous aussi, pour nous notaires, un poids supplémentaire pour dire aux clients, écoutez, mettez-vous d'accord, sinon maintenant, un seul d'entre vous va pouvoir demander la vente au tribunal. Et ça ne sera peut-être pas dans un cadre où tout le monde pourra... décider tous ensemble du meilleur moyen de vendre dans les meilleures conditions, parce que finalement, au bout du bout, on a un intérêt commun.
Parce que cette indivision, enfin, je veux dire, une fois qu'elle est baquée, c'est encore chez le notaire qu'il faut préparer ça sérieusement et éviter ce genre de problème.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Bon. Vous voyez qu'on est un petit peu comme dans les grands problèmes géopolitiques, finalement. On retrouve exactement les mêmes choses. Les décisions de l'ONU, etc. Bref, Maître Barbara Thomas-David, merci de nous avoir éclairé sur justement cette problématique de l'indivision et éviter les problèmes entre indivisaires. Merci infiniment. On passe au placement à suivre, bien sûr.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Julien Nebenza, Didoro, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, c'est très intéressant de vous avoir dans ce contexte actuel. Premièrement, parce qu'on se retrouve dans un marché qui est plein de surprises, et en plus qui est plein de surprises de côté où on ne les attendait pas forcément. Donc c'est le double œuf Kinder. Mais il y a autre chose dont il faut qu'on parle, et qui est lié bien entendu, et on en parlait tout à l'heure avec Gustave Sanden, là, dans le déchiffrage. C'est très intéressant ce qu'il nous disait. Il nous disait, alors ça concerne les marchés américains, qu'en gros, si on fait la moyenne des options d'achat et des options de vente, on arrive en ce moment pour l'activité retail, pour l'activité qui concerne les particuliers qui viennent placer leur argent en bourse, à un niveau qui est au plus bas jamais vu depuis 20 ans. Ça faisait des mois qu'on disait Wall Street est en train de fonctionner sur un principe qui est assez simple, c'est-à-dire qu'en cas de turbulence de marché, les investisseurs institutionnels vendent le marché et le lendemain ou le surlendemain, c'est rattrapé par l'activité retail parce que les particuliers y voyaient un intérêt. Et là, visiblement, le moteur est en train de se dégonfler. Ça ouvre plusieurs sortes de perspectives pour essayer d'évaluer un petit peu l'état d'esprit des marchés. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, justement, cette stat?
Alors, les ratios d'options, donc le rapport entre les calls et les puts, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est quelque chose qu'on observe depuis maintenant 40 ans. Mmh. En général, ce sont soit les stratégistes de marché ou les analystes techniques qui utilisent ça, pas les analystes financiers. Mmh. Et c'est pour essayer d'évaluer le sentiment de marché, tout simplement. Ce que moi, je constate depuis une dizaine d'années, plus même peut-être 15 ans, c'est que la conclusion qu'on peut dégager de l'état de ces ratios et de leur dynamique, elle est beaucoup moins pertinente qu'elle l'était il y a 20 ans. Donc, c'est toujours intéressant, mais je pense que ça l'est moins. Faire une deuxième observation, quand en fait vous posez la question, vous dites, le ratio est là, et les particuliers, pourtant, c'est ceux qui venaient acheter. En fait, ça fait référence, dans mon esprit, à un sujet que j'avais développé l'an dernier, c'était la relation des marchés financiers aux mythes. En fait, les mythes, on a toujours besoin de... Les sociétés se construisent avec des mythes.
Ah, toujours, bien sûr. Ouais.
Et les mythes ont toujours une origine réelle, se transforment, évoluent dans le temps, se simplifient, etc. Et on a évolué toujours en finance avec des mythes, notamment dans la finance populaire, celle de tous les épargnants. Dans les mythes, il y a des gens qui savent et ceux qui ne savent pas. Dans les mythes, les professionnels sont toujours en avance. Ou dans les mythes, il y a eu longtemps, le particulier est en retard. Il y a eu très longtemps ça. En fait, on essaie de se raccrocher à l'un de ces mythes pour essayer de se dire quel signal on est en train d'avoir sur l'évolution des marchés financiers. Alors, il y a eu un changement, je pense, important au cours, cette fois-ci, des 10 dernières années, à peu près. C'est le niveau d'éducation financière dans le monde et dans les pays, évidemment, occidentaux. Les investisseurs privés ont de plus en plus pris connaissance des mécanismes boursiers et ils ont intégré les rythmes successifs de hausse et de baisse. C'est comme ça qu'on a vu, notamment en 2025, au moment du Capitulation Day, enfin Liberation Day, jour de capitulation, oui. On a vu des particuliers justement investir significativement. Ça, c'est une chose qui maintenant doit être intégrée. C'est-à-dire que le comportement des particuliers n'est plus celui qu'on a observé il y a 20 ans.
Bien sûr, oui.
Maintenant, c'est très bien de se dire que un investisseur privé est capable de voir quand ça baisse que c'est peut-être attractif pour acheter. Donc, par exemple, il pourrait être là. C'est très bien. Sauf que ce genre de raisonnement tient tant que l'émotion ne l'emporte pas. L'émotion, c'est l'avidité ou la peur. Ici, on est plutôt dans le cas de la peur que de l'avidité en ce moment.
Totalement, oui.
Voilà.
Oui.
Donc, on peut garder ce raisonnement, mais il faut savoir qu'il faut le mettre. Il faut savoir que dès qu'on est à la périphérie de ça et qu'on est dans l'émotion, le raisonnement disparaît totalement. Alors, si on prend le cas de la baisse récente et les chiffres qu'on donne, les investisseurs particuliers, ils ont quand même assez probablement, globalement, suivi les tendances principales des toutes dernières années, c'est-à-dire technologie, software, IA. Et quand vous voyez un Dow Jones qui a perdu, mettons, 5-7% depuis ses sommets, on peut se dire, bah, finalement, c'est peu. Pourquoi est-ce qu'on serait si couvert? Pourquoi on serait si inquiet? En fait, non. Quand vous détenez un portefeuille composé de valeurs techno, de valeurs de software, de valeurs d'IA liées à toutes ces thématiques, vous êtes plutôt en baisse de 30 ou 40% hein, par rapport au sommet. Donc, vous constatez quelque chose d'assez fort. Et c'est relativement normal. Et c'est ça qu'on est dans l'émotion. Non, c'est relativement normal d'aller chercher un peu de couverture. Donc, de dégager maintenant, à partir de cette donnée, de dégager une sorte d'anticipation.
Ouais.
Pour les raisons que j'ai dites, je ne le ferai pas, je ne peux pas le faire, mais je ne considère pas que cette donnée empêche en soi le développement d'un marché baissier tel qu'il se construit. Et notamment, je pense qu'il y a une grande différence dans la compréhension de tous les épargnants, professionnels comme investisseurs privés, une grande différence entre une guerre commerciale. Je parle à nouveau du Liberation Day, d'une guerre commerciale qui était en gestation depuis plusieurs années, que Trump réactive et réactive, avec une situation actuelle que je centre sur le détroit d'Ormuz.
Oui. Parce
que il n'y a que ça pour moi qui soit important, mais que je centre sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, dans ses conséquences les pires, c'est exactement la même chose que la pandémie. C'est exactement la même chose.
Oui, c'est
les conséquences
les pires,
c'est une fermeture d'activité, une mise à l'arrêt des économies.
C'est ça.
Donc, je crois que ça, tout le monde le perçoit. Donc, qu'on manifeste une certaine prudence sur les marchés financiers me semble être simplement, cette fois-ci, non pas de la panique, ou non pas un excès, mais juste du bon sens. Donc, je ne dégagerai pas beaucoup d'éléments d'anticipation des marchés financiers par rapport à cette donnée, en tout cas à ce stade.
D'autant plus que c'est un chiffre qu'on peut prendre dans les deux sens. C'est-à-dire, le particulier américain a plus envie d'investir en bourse. Bon, ok. Ça peut vouloir dire aussi que justement le cycle est venu pour les investisseurs institutionnels de reprendre le cap et d'être à nouveau ce soutien des marchés qui n'ont pas été ces derniers mois où on voyait que c'était plutôt le particulier. Une sorte de balancier qui repart dans l'autre sens.
Alors si on avait une intelligence artificielle pour répondre à la question, elle dirait probablement, analysons toute la succession d'informations qu'on va avoir dans les heures, jours, semaines qui viennent, pour essayer d'ajuster la probabilité d'effondrement des économies occidentales. Et des briques d'ailleurs, d'effondrement général.
Bien sûr.
Et en fait, plus l'information se tempère, plus en fait votre IA va vous dire non, ça va un petit peu mieux et vous allez racheter un petit peu d'actions. Ou alors plus l'information que vous avez va vous dire attention, en fait le risque est en train de croître, plus vous allez revendre des actions. Eh bien cette IA, elle va juste faire mieux. Elle, à mon avis, elle existe déjà, mais je prends ça pour imager. Elle va juste faire la même chose, probablement en mieux, en plus rapidement, que ce que font des professionnels. Ils ne sont que dans l'estimation des probabilités en ce moment. Donc de dire que les institutionnels vont maintenant prendre le relais sur, c'est revenir à la notion de mythe. C'est revenir à, ah oui, on va avoir un sauveur, ou on a une explication. Non, à mon avis, il n'y en a pas ici.
Il n'y en a pas. Camus, vous croyez qu'il y a une grande stratégie? Il n'y a rien.
Non, c'est Est-ce que la situation qu'on a va légèrement s'améliorer? Voilà. Auquel cas, les intentions d'achat vont se manifester et une petite dynamique de reprise va se mettre en place. Mmh. Et après, on a les mécaniques classiques de momentum. Ça remonte, donc je suis rassuré, donc je rachète, etc. etc. Mmh. Ou est-ce que c'est l'inverse qui se met en place? Voilà. Là où je vais rejoindre le point de départ, c'est quand on a une statistique qui montre que les investisseurs privés sont quand même extrêmement préoccupés, normalement, on n'a pas le début d'un grand crack. Je pense que ça, normalement, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Mais ce que je dis est valable pour un mois. C'est pas du tout valable pour 2026. Ouais, non. C'est juste que la situation actuelle nous permet de dire peut-être qu'en ce moment, on est dans la digestion de toute cette information qui vient de passer. Et après, comme je disais, en fonction de l'information, on va reprendre une trajectoire de reprise où on va glisser un petit peu plus, mais c'est tout ce qu'on peut dire, à mon avis.
Vous avez vu, là, au début, enfin, il y a une quinzaine de jours, le porte-parole du Parlement iranien commençait à donner des conseils de trading aux boursiers de Wall Street en employant le dialecte des boursiers de Wall Street et en leur disant, justement, faut prendre les informations à l'envers. Et il avait juste à peu près à chaque fois. Enfin, c'était... Là, on est dans une période de surprise maximale et on ne sait même pas d'où va venir la surprise. C'est ça qui est assez étonnant.
C'est... Alors, pour commenter ça de manière très, très simple, enfin, pour moi, ouais. c'est le chaos permanent, informationnel et aussi émotionnel. Et ça correspond à l'état de destruction, c'est un sujet dont on a parlé sur la partie géopolitique. Ça arrive à peu près tous les 110 ans. Mmh. Ça prend en général 20 ans. Ça a commencé probablement entre 2014 et 2016, probablement par là. Donc, on est en plein dedans, on en a encore pour un moment. Mmh. C'est la destruction du système mondial tel qu'il était organisé préalablement. En fait, un système s'organise, il est efficace, et à un moment, il devient de moins en moins efficace, et donc il est critiqué. Et en fait, pour en créer un autre, on n'a pas trouvé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis la Renaissance, on n'a pas trouvé d'autre solution que de tout détruire.
Ouais.
Voilà. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de tout casser. Trump, c'est le meilleur exemple.
Oui,
il casse à peu près tout ce qui est devant lui. Enfin, c'est systématique chez lui.
Break it now, fix it later.
Exactement.
Mais le later... Là, va falloir
donc,
une échelle
donc, du
de
coup,
temps.
On se retrouve avec des porte-paroles de gouvernement qui disent vous devriez faire ceci, cela sur les marchés financiers, ce qui est complètement fou, quoi.
Ça. Julien Debenzal, dit Toro, merci infiniment. On a pris un peu de recul, justement, sur toute cette incertitude et on a pu la quantifier et quand même y déceler quelques dynamiques super intéressantes. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'œil du biais comportemental sur les marchés, toujours très, très, très didactique. Restez avec nous dans un instant. On va s'interroger sur les tendances autour de l'or. Ça continue d'étonner, mais est-ce que c'est le moment de regarder ça d'un peu plus près? On sera avec Olivier Herbout dans quelques minutes. Olivier Herbout de Ramify. Merci de rester à l'écoute de BFM.
Tout pour investir, le coffre-fort.
On va se pencher sur le cas de l'or qui n'en finit pas d'étonner. Oui, parce que... La valeur refuge par excellence, depuis le début de toute cette période de tempête, d'incertitude géopolitique, l'or, il ne fait que consolider comme un actif un petit peu volatile, comme une action, comme on ne va pas dire comme une crypto, mais il y a quelque chose de... Jamais l'or a été aussi volatile qu'en ce moment. Et ça paraît étonnant, un peu contre-intuitif. Olivier Herbout de Ramify, bonjour.
Bonjour.
Alors... Peut-être déjà se consacrer aux fondamentaux. C'est une valeur refuge, l'or, depuis le Moyen-Âge. Comment ça se fait que l'or baisse? On est d'accord qu'il y avait peut-être certaines positions spéculatives de ces derniers mois à liquider. Mais ça reste quand même étonnant que l'or n'ait pas plus de dynamique en ce moment. On est à 4737 dollars en ce moment, très loin de ses plus hauts historiques.
Absolument, c'est très contre-intuitif. Mais les marchés ont plutôt tendance à réagir sur les... effets de la guerre. Mmh. Et donc, l'effet principal de la guerre, c'est effectivement l'augmentation du prix du baril du pétrole. Et en ce sens, les marchés prévoient une hausse potentielle de l'inflation, et une hausse assez importante, et donc d'augmentation potentielle des taux par les banques fédérales, centrales. Et l'or est justement très dépendant de ces augmentations des taux. Pourquoi ? Puisque l'or est avant tout... finalement un asset qui n'a pas de rendement. Effectivement, le stock, il n'a pas de rendement. Une augmentation des taux directeurs a tendance à affaiblir le cours de l'once d'or. Et c'est ce qu'on a vu en mars, une diminution de plus de 15%.
Alors là, ça ça paraît logique, mais c'est totalement contre-intuitif dans le sens où, alors, on fait dire n'importe quoi alors. Ça, je suis d'accord.
On peut.
On peut. Et en particulier, il y a quelques années, je me suis dit, oh, mais l'or, c'est le parapluie anti-inflation. Mais en fait, on se rend compte dans les faits, et particulièrement avec la situation actuelle, que c'est bah, non, en fait, pas nécessairement.
Absolument. C'est dur de connaître toutes les implications de chaque classe d'actifs, notamment l'or. L'or est une valeur refuge de long terme. Mais il est très dur de prévoir sur le très court terme, effectivement, ces fluctuations de l'or, mais aussi de toutes les autres classes d'actifs.
Alors, comme toutes les classes d'actifs en ce moment, on peut se demander si les mouvements de court terme sont aussi une bonne occasion d'y investir. Est-ce que c'est le moment de se repositionner sur l'or si on n'y est peut-être pas trop exposé en ce moment ?
Ce qui est sûr, c'est qu'avoir de l'or dans son allocation patrimoniale est une bonne chose. En ce qui concerne votre question, est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Et effectivement, au vu du contexte géopolitique, on voit les news qui arrivent. Vendredi, on avait des news extrêmement positives. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un blocus qui arrive. C'est un peu dur de prévoir. En tout cas, je ne le recommande pas. Nous, chez Ramify, nous ne sommes pas des traders de court terme. Et d'ailleurs, je le souhaite bon courage. Nous, on est là pour créer une allocation patrimoniale de long terme pour nos investisseurs, ceux qui décident de nous faire confiance.
Alors, dans une bonne allocation d'actifs, si là encore on se fonde sur une optique de long terme, combien il faut avoir en quantité d'or dans son portefeuille, en proportion ? Peut-être quelques pourcents, 5%.
Exactement. Nous, pour un patrimoine équilibré, on va recommander entre 5 et 10%.
5 et 10.
L'or a beaucoup d'atouts, très concrètement. Une grande résilience, un grand caractère diversificateur avec les autres classes d'actifs. Pour autant, ça ne pourra jamais être le moteur principal d'une allocation.
Non, bien sûr.
Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de rendement. Donc, c'est une classe d'actifs essentielle à avoir dans son portefeuille, mais en quantité limitée, 5 à 10%.
Bon, et cet or, comment on s'y expose ? Est-ce que on achète un lingot, des pièces qui gardent quand même une certaine forme de liquidité ?
Elle garde une certaine forme de liquidité, mais on pense qu'il y a mieux. Avoir un lingot d'or, ça peut faire rêver. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes de stockage et donc il y a ça de sécurité. Et bien sûr, un peu de liquidité quand même. Ce n'était pas si simple de vendre un lingot d'or à n'importe quel moment de la journée. Nous, ce que l'on va recommander, c'est de le faire via un ETF indexé. Alors, ça me semble le plus adapté et le plus simple pour un investisseur grand public.
Puis si vous êtes dans le psychologique, dans l'émotion et que c'est le rêve d'avoir un lingot d'or, sachez que c'est très décevant parce que c'est tout petit, c'est grand comme ça, c'est très lourd. Mais voilà, ce qu'on voit dans les films, c'est pas les lingots, c'est les barres. Ça vaut beaucoup plus cher. Cela dit, on peut s'exposer aussi via ce qu'on appelle l'or papier, les produits financiers indexés sur l'or. Bon, il y a les ETF, bien entendu. Est-ce que là aussi, c'est une solution qui est envisageable, suivant son profil, bien sûr ?
Elle nous semble bien plus pertinente, même s'il faut bien faire attention et différencier de quoi on parle lorsque l'on parle d'ETF. Est-ce que l'on parle d'ETF exactement indexé à l'or ou est-ce qu'on parle, par exemple, d'ETF qui va être, eux, indexé sur un ensemble d'entreprises minières aurifères ? Faut bien les différencier. Les ETF qui sont directement indexés à l'or, on pense que c'est extrêmement pertinent et vous pouvez les trouver notamment dans un compte titre ordinaire.
Ouais.
Pour ceux qui veulent en plus avoir une réflexion patrimoniale fiscale, l'insérer au sein d'une assurance vie luxembourgeoise nous semble être le plus pertinent. C'est à partir de 250 000 euros.
Oui.
Mais sinon, le faire via un ETF, effectivement, qui reproduit les performances des entreprises minières, peut être une bonne solution. Attention toutefois, vous prenez un risque supplémentaire puisque vous investissez non pas dans l'or directement, mais bien dans ces entreprises. Et donc, il faut maîtriser ces sujets.
C'est ce que j'allais vous dire. Parce que le truc, ça pourrait se dire, au lieu d'investir sur l'or, je vais investir sur les grandes entreprises de mines, les Newmont, les Harmony Gold, etc. Mais c'est un petit peu comme le pétrole, finalement. C'est pas parce que le pétrole monte que le cours d'une entreprise pétrolière va forcément monter. Bon, c'est le cas en ce moment parce qu'on est vraiment très réactif au cours de l'énergie en cette période de crise. Mais ça va pas forcément de soi. C'est des entreprises qui ont des coûts spéciaux, qui sont dans un écosystème système très spécial. Est-ce que pour autant, ça peut être un bon moyen de s'exposer à l'or ?
On reste exposé à l'or, mais on n'est pas exposé que à l'or. Et en ce sens, c'est un peu à vos risques et périls. Il faut bien maîtriser la gestion d'une exploitation d'une mine aurifère. Voilà, c'est un travail en soi, et même si l'or peut avoir un cours très intéressant, en tout cas sur les dernières années, effectivement, il s'est énormément apprécié, plus de 50% l'année dernière. Toutefois, une entreprise aurifère a d'autres sujets, celle de la bonne gestion d'une entreprise. Donc, c'est pas fondamentalement lié.
Effectivement, puis là, on rentre dans la problématique plus générale du marché actions et d'un petit peu analyser les comptes des entreprises, leurs perspectives, leurs dynamiques. Merci infiniment, Olivier Herbaud, Ramify.
Merci à vous.
D'avoir fait le point sur le marché de l'or. C'est vrai que c'est bien qu'on en parle un petit peu régulièrement de temps en temps et on continuera à le faire, bien entendu, avec nos experts maison pour un peu expliquer cette tendance au plafonnement de l'or, malgré tout, en pleine période d'incertitude. C'est contre-intuitif, mais c'est aussi peut-être des opportunités. Merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle édition de TPI, tout pour investir. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse et d'ici là, Marie-Claire Deroy, les experts de l'IMO. À bientôt sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.